Révolution médicale, René Friedman.
Révolution médicale. Une émission de René Friedman qui reçoit aujourd'hui
Claude Medushansky.
Nous allons parler de la gastro-entérologie, mais surtout d'un organe qui est moins connu dans nos préoccupations quotidiennes, quoique l'intestin grêle. Parce que vous avez consacré une grande partie de votre activité, professeur Matuszanski, vous qui êtes gastro-entérologue et qui avez été à l'hôpital Saint-Lazare, l'hôpital Lariboisière, au CHU de Poitiers, et puis avez été nommé professeur émérite. Vous êtes consacré donc particulièrement par deux points particuliers, oui. Que sont la nutrition parentérale, c'est-à-dire comment maintenir une nutrition lorsqu'on n'arrive plus à passer par les voies naturelles. Et vous avez développé la transplantation intestinale chez l'adulte, nous le préciserons. Et donc vous vous adressez à des pathologies qui sont assez redoutables. On va le voir parmi les domaines de l'immunologie en particulier. Vous avez fait évidemment de très nombreuses publications scientifiques, vous avez créé une école, vous avez des élèves avec vous et vous avez eu un certain nombre de prix, tels que tout récemment, en 2015, le Lancet Barclay Prize, qui permet de reconnaître bien sûr les gens de talent que vous êtes. Vous avez été aussi à l'édition de Médecine Science de la revue pendant de nombreuses années. C'est dire que votre activité scientifique et éducative s'est faite largement et qu'elle continue fort heureusement à se faire. Professeur Matuszanski, l'intestin grêle, alors qu'est-ce que c'est exactement que ce long tube qui n'est pas si inerte que cela?
Je dirais par analogie à une carte qu'on a sur soi, c'est un système multicarte, c'est un organe multicarte. Juste un tout petit mot d'histoire pour rendre hommage à celui qui a introduit vraiment l'étude de l'intestin grêle en France, le professeur Bernier, il y a 50 ans. Et ensuite son adjoint Jean-Claude Rambaud, et c'est eux qui nous ont formés, qui m'ont formé à l'étude physiologique d'abord, et ensuite pathologique et physiopathologique de cet organe, qui jusque-là était méconnu. Il avait connu un début d'intérêt dans les pays anglo-saxons dans les années 50. Et c'est par des séjours en pays anglo-saxons que nous avons introduit, disons, en France, l'intérêt pour l'intestin grêle et que M. Bernier a créé vraiment une école dont je suis personnellement issu, ainsi que Jean-Claude Rambaud, qui est mon maître.
Donc c'est un organe de 6 mètres de long, à peu près?
Alors, c'est un organe, Rouvière dit 6 mètres 50. Mmh. En fait, il est compris selon la taille des individus, le sexe, entre 3,50 m et 8 m.
Mais il va de où à où?
Alors, il va, en fait, de la sortie de l'estomac jusqu'à la jonction avec le côlon, c'est-à-dire la valvule iléocolique. Je dis depuis la sortie de l'estomac parce qu'il faut inclure dans l'intestin grêle, par ses fonctions, le duodénum. Même si, comme on le verra tout à l'heure probablement, les transplantations intestinales concernent, lorsqu'elles sont isolées, essentiellement le jéjunum et l'iléon.
Donc le duodénum, c'est la sortie, n'est-ce pas,
de l'estomac,
qui est fixe, qui fait
25 cm.
Qui est petit, mais qui est très important, on le verra tout à l'heure, et qui se poursuit donc par le reste, qu'on appelle jéjunum ou iléon, et qui ont des fonctions un peu différentes, et qui ont des longueurs de 2,5 m, 4,5 m, enfin. Ce qui est important, c'est que, comme il y a des replis à l'intérieur de l'intestin, c'est pas un simple tuyau, et si on déplissait ces valvules, eh bien, on aurait quasiment, on dit, un terrain de tennis, vous êtes d'accord, 250 mètres carrés.
Absolument, même plus. Tout à fait.
Ce que vous dites, on a ça dans le ventre.
Bon. Ce que vous dites est parfaitement exact. C'est ce qui ajoute à l'intérêt de cet organe dont j'ai dit qu'il était multicarte.
Je peux en dire
un mot?
Ah, ben, bien sûr.
Alors, la première carte, bien sûr, de fonction, c'est l'absorption. qui nous permet de vivre, l'absorption aussi bien des principaux nutriments, les glucides, les lipides, les protéines.
Sans intestin, on ne vit pas.
Ah, sans intestin, on ne vit pas.
Voilà. Donc, honneur à l'intestin.
Honneur à l'intestin.
Voilà.
On ne veut pas tirer, nous autres gastro-entérologues, la couverture à nous, mais disons que...
Il n'y a pas que le cœur.
Il n'y a pas que le cœur, il n'y a pas que le foie, il n'y a pas que le rein. Mais bon.
D'accord.
Donc, la première fonction, l'absorption des principaux nutriments, mais également des micronutriments qui sont si importants, en particulier chez la femme enceinte. Mm-hmm. C'est-à-dire les oligo-éléments, c'est-à-dire le zinc, etc. Puis il y a d'autres fonctions essentielles. L'immunologie d'abord, c'est le principal organe immunologique du corps.
C'est-à-dire qui va nous permettre de nous défendre.
De nous défendre.
Contre toutes les agressions,
plupart
des agressions.
Et là déjà on en dira probablement un mot, le microbiote. Parce que cette immunologie se développe, très curieusement, à cause d'antigènes qui vont...
Parce qu'il est colonisé.
Il va être colonisé.
Par des bactéries, par d'autres substances, on va dire.
Bactéries, champignons, virus, il y a un microbiome, donc c'est un organe immunologique. D'ailleurs, il est intéressant de savoir que la masse immunologique de l'intestin, c'est-à-dire les plaques de Peyer, les ganglions mésentériques, ainsi que l'organe diffus qui se trouve dans le chorion, est égal au volume de tous les organes immunologiques en dehors de l'intestin, c'est-à-dire la rate et les organes lymphoïdes. Donc c'est intéressant de voir
Bien sûr, c'est une fonction... Mais on peut répéter que sans intestin grêle, on ne vit pas. Donc c'est un organe noble, et vous êtes en train de démontrer donc ces multicartes, donc la carte de l'absorption, il faut bien se nourrir, et ça passe par là. Et il faut bien se défendre, et ça passe également par là. Mais ce n'est pas tout.
Ce n'est pas tout, alors merci de me donner l'occasion de... Il y a la carte endocrinienne, car l'intestin s'est développé au point de vue embryologique, à partir, bien sûr, de l'endoderme qui tapisse la muqueuse, mais il y a une partie qui se développe à partir du tube neural. C'est l'origine neuroectodermique des cellules endocriniennes, neuroendocrines, qui joue un rôle très important et qui explique pourquoi, comme on le verra peut-être tout à l'heure avec le microbiote, ce deuxième organe qu'est le microbiote a des connexions nerveuses très importantes.
Mais oui, on dit même... il y a des
neuro-endocriniennes.
Oui, on dit même que c'est le deuxième cerveau. Alors ça, c'est un peu bizarre.
Le deuxième cerveau, oui.
L'emploie souvent. Et c'est le succès de Librairie de Francisca Joly-Gomez. L'intestin, notre deuxième cerveau.
Ah oui. Qui...
C'est le charme discret de l'intestin de Julien Anders.
Absolument.
Qui font fureur actuellement. Alors donc, vous confirmez bien cette notion d'interaction avec le système nerveux par l'intestin, qu'on pensait un organe sans intérêt, un tube affalé.
Absolument.
Quoi.
Alors, c'est plus complexe probablement qu'on ne semble le dire actuellement.
Oui, l'intestin ne pense pas.
Et je pense que l'intestin ne pense pas. Et que, comme dans toute recherche, je pense, bon, sans fausse modestie, justement, qu'une des qualités principales, c'est la modestie de la découverte. Et tout ce qui n'est pas encore acquis n'est que probable ou possible. Donc, bravo pour tout ce qui se fait pour le microbiote, mais sachons donner des limites raisonnables, y compris pour le grand public, qui aime la vérité, même si elle est simple, il aime bien la vérité.
Mais puisqu'on aborde cette question, restons-y sur ce microbiote, puisque on dit donc qu'on va le constituer à la naissance. Normalement, l'enfant est stérile à l'intérieur.
Absolument.
Il est stérile au point de vue infection, j'entends, dans son tube digestif. Et puis, il va se coloniser. D'ailleurs, il y a une discussion sur la césarienne ou l'accouchement par voie basse. Est-ce qu'il y a des différences dans l'immunologie, dans la rencontre progressive ou non avec l'environnement ? Professeur,
Je pense que votre question est essentielle. Je ne suis pas pédiatre, mais je m'intéresse. Je pense que tout bon gastroentérologue d'adulte doit s'intéresser à l'enfant et vice versa.
Bien sûr. Vous êtes intéressé à l'enfant, d'ailleurs. On y reviendra tout à l'heure.
Oui. C'est évident. Donc, effectivement, le tube digestif est stérile à la naissance et il se colonise lors de l'accouchement par voie vaginale. Donc, l'accouchement par voie vaginale a quand même quelque chose de très concret à apporter. La flore définitive s'installe, finissant de s'installer vers 18 mois, 2 ans. Mais dès la naissance, cette flore vaginale joue un rôle très important pour l'enfant. Or, on a montré récemment, certainement vous connaissez ces faits, que lors des césariennes manque justement cette colonisation lors de la naissance par voie vaginale. Et alors, c'est là qu'il faut rester prudent. On a essayé de faire une association par certains travaux, notamment chez l'animal, entre l'absence de colonisation par la voie vaginale, un certain nombre de maladies de l'adulte. Ce sont des suggestions pour l'homme. Hein,
parce que... Oui, parce qu'en fait, de tout ce point qui traîne un peu là, ici ou là, il n'y a jamais eu d'études qui ont montré vraiment que les enfants nés par césarienne faisaient, par exemple, plus d'allergies ou de
exactement,
problèmes.
Exactement.
On n'a rien qui le prouve.
Non, hein. Non, rien qui le prouve.
Donc c'est des idées.
C'est des idées.
Voilà qu'on utilise.
Alors ça va très loin puisqu'on parle d'allergies, d'autres maladies auto-immunes, les maladies inflammatoires de l'intestin, même la maladie cœliaque, le diabète, etc. Mais ceci n'est pas prouvé. Mm-hmm. Mais il y a un travail alors très récent qui est intéressant, qui vient de paraître dans la dernière livraison d'une des variantes du Lancet. C'est que on peut arriver à faire un transfert de flore pour les enfants nés par césarienne grâce à des gaz vaginales que l'on applique à la femme qui lors de l'accouchement.
Qui va être césarisée, oui.
Et qu'ensuite, on va implanter sur la bouche de l'enfant. Et on a vu que de cette façon, on peut aider à développer une flore de type vaginal chez le nouveau-né. Donc bon, c'est...
Mais vous y croyez, ça ?
Bon, je pense que c'est dans la mode actuelle. Mais l'idée quand même qu'on puisse donner à un enfant né par césarienne une flore de type vaginal grâce à un transfert de flore, et que ce transfert de flore est efficace, je crois que c'est une idée intéressante. C'est intéressant, d'autant plus que il y a un autre travail encore très intéressant publié dans un des numéros du Lancet, qui est la caractérisation alors du profil de la flore au cours des entérocolites nécrosantes du nouveau-né.
Alors ça, c'est une maladie redoutable.
Voilà, que vous connaissez très bien.
Que malheureusement on connaît parce que les enfants prématurés que nous sommes amenés à mettre au monde, parmi ceux-ci, les grands prématurés peuvent développer cette maladie qui va justement leur détruire leur intestin et parfois donc être fatale.
Alors ce qui est intéressant, c'est que un des traitements possibles dans les formes graves d'entérocolite, bon, du prématuré, d'entérocolite nécrosante, c'est un domaine qui n'est pas directement le mien mais auquel je m'intéresse de façon livresque,
bien sûr.
C'est le transfert de flore, soit par des probiotiques, soit franchement par un transfert de flore plus complet. Et donc, il est intéressant de voir qu'on peut déjà peut-être réussir un transfert de flore, indépendamment de ces cas d'entérocolite nécrosante, chez des sujets nés par voie de césarienne, et que donc peut-être on pourra optimiser qualitativement ce transfert de flore à des fins thérapeutiques dans le cas des entérocolites
nécrosantes. Donc là, je suppose qu'il y a des études qui sont en cours et qu'on aura dans quelques temps, je dirais, l'efficacité ou non du transfert de flore intestinale ou vaginale, en l'occurrence, de la femme à l'enfant, pour qu'il constitue sa propre défense, quoi.
Absolument.
Oui, c'est absolument novateur, étonnant. En tous les cas, ce n'est pas prouvé, mais on n'est pas encore en train de barbouiller tous les nouveaux-nés nés par césarienne avec la flore vaginale de sa maman, mais qui sait. Restons vigilants, en tous les cas, aux études. Donc, beaucoup d'importance donnée à cet environnement intestinal qui lui-même est lié à l'environnement plus général. Parce que ce microbiote, il est aussi conséquence de l'environnement général. Mais il est aussi donné une fois pour toutes.
Oui. Alors, un petit rappel, sans être trop professeur, mais un petit rappel. Ce qui est intéressant d'abord, c'est de voir que c'est dans le tube digestif que 70% de l'ensemble du microbiote de l'homme se trouve. Car évidemment, il n'y a pas que le tube digestif. Mais 70%, c'est dans le tube digestif. Le reste, c'est la peau, c'est
beaucoup,
les voies respiratoires.
Bien sûr.
Et voilà. Alors, ce qui est certain, c'est que les acquis du profilage moléculaire du microbiote, hein, grâce à la détermination des séquences génomiques de l'ARN ribosomal 16S, c'est là que tout est parti.
Oula, c'est compliqué, ça.
Oui,
c'est quoi,
compliqué.
Pour nos auditeurs,
mais...
Non, mais il faut juste leur expliquer.
Comme on a certainement aussi des médecins qui nous écoutent, ils ont entendu parler de cela, parce que c'est ça qui a fait la révolution. Entre la période antérieure où les seules bactéries connues dans le tube digestif étaient des bactéries cultivables et cultivées, maintenant, beaucoup de bactéries ne sont pas cultivés, mais sont caractérisés par la séquence génomique de leur ARN ribosomal 16S.
Et qu'on arrive à savoir qu'elles sont là, Sans forcément voilà. les mettre en
Sans
en
forcément les mettre en, en, en évidence. Alors, ce qui est important, c'est qu'il y a d'une part un profil personnel absolument certain et relativement immuable du microbiote intestinal, mais surtout du microbiote du bas intestin. Parce que quand on passe de haut en bas, on augmente, on voit une augmentation très importante de la concentration des bactéries. Dans la bouche, on est déjà à 10 puissance 6 bactéries buccales. Mais quand on passe dans l'estomac, on n'est plus qu'à 10 puissance 3, c'est-à-dire 1000 par millilitre, par contenu. Puis ensuite, quand on arrive dans le duodénum, on arrive à 10 puissance 5. Dans le jéjunum, 10 puissance 5 également. Dans l'iléon, on est à 10 puissance 8. Et dès qu'on a franchi la valvule iléo-cécale, qu'on entre dans le côlon, on est à 10 puissance 11, 10 puissance 12 par millilitre de contenu intestinal. Alors 10 puissance 12, c'est 1000 milliards. 10 puissance 9 que multiplie 10 puissance 3.
Oui, c'est assez infernal, ça.
C'est assez infernal. C'est ce qu'on appelle en France un billion. Hein, 10 puissance. Et c'est ce qui fait que l'ensemble des bactéries du tube digestif sont définies par le nombre de bactéries essentiellement coliques. Parce que si on ajoute une puissance à 10 puissance 11, on réalise peu de choses. Donc c'est ce profil de bactéries coliques qui est assez personnalisé, effectivement.
Mais vous parlez de bactéries, mais il y a aussi des mots bizarres tels que firmicut, bactéroïdetes, qui constitue le microbiote. Enfin, on a l'impression vraiment que ça fourmille.
Ah oui, absolument. Alors, il y a deux choses. Alors, d'une part, l'essentiel des bactéries du côlon, donc de la partie qui est la plus fournie en bactéries, sont des anaérobies strictes, sans être trop savants, des bactéries qui n'ont pas besoin d'oxygène. Et elles appartiennent essentiellement à quatre catégories. Alors, les firmicutes, effectivement, c'est une nomenclature relativement récente qui remonte à plusieurs années. Mais alors, les firmicutes sont très importants, c'est des anaérobies, c'est des clostridies notamment. Mais elles sont intéressantes par leur fonction. Parce que ces firmicutes, ce sont elles qui vont dégrader un des éléments essentiels de notre alimentation, que sont les sucres, et notamment les sucres qui sont un petit nombre d'unités glucose, qui vont les dégrader en acides gras à chaîne courte, qui eux sont une des sources de récupération énergétique par le côlon.
Alors, nos auditeurs peuvent croire que tout ça c'est du détail scientifique qui ne concerne pas. On va voir tout à l'heure que dans les maladies qui atteignent donc un certain nombre de nos concitoyens, comme la maladie de Crohn ou les rectocolites hémorragiques ou d'autres encore, eh bien, il y a des modifications qui sont actuellement mises en évidence de tout cet équilibre environnemental, particulièrement autour des bactéries que vous venez de citer et d'autres variantes.
Oui. Alors juste, il y a les firmicutes qui donc permettent à l'organisme de récupérer de l'énergie, également qui permettent à l'intestin de fonctionner, parce que c'est au niveau notamment du côlon que se fabrique du butyrate, qui est un peu, comme on dit, le pétrole, le carburant de l'intestin. Bon. Ensuite, il y a une catégorie qui sont les bactéroïdettes, des bactéries des ensuite des actinobactéries, des protéobactéries. Et il y a entre les firmicutes et les bactéries des un équilibre permanent dont la rupture
peut entraîner
se voit dans un certain nombre d'affections. Ça ne veut pas dire qu'elles sont la cause, cette rupture est la cause de ces affections. Ça peut en être que le témoin. Mais c'est une signature moléculaire, disons, d'un certain nombre d'affections.
Alors, parlez-nous, professeur Matuszanski, justement, d'une des principales maladies du tube digestif, qui est la maladie de Crohn. Ce nom, déjà, c'est dû à son, je suppose, à celui qui l'a identifié.
Oui, Buril Crohn, 1936, avec Ginsburg et Oppenheimer. Oui. Mais au passage, je me permets un tout petit point d'histoire.
Au contraire.
Il est probable que Louis XIII et peut-être Louis XIV
avait une maladie de Crohn.
Ont une maladie de Crohn. Oui. C'est probable. Il faut rester rigoureux. Je ne dis pas que c'est affirmé, mais c'est probable. Ils avaient des lésions anales associées, mais à ce moment-là, pour des raisons d'hygiène, bien entendu, les fistules et les suppurations anales étaient fréquentes.
Alors, ça se traduit comment, les maladies de Crohn, même si c'est Louis XIV?
Alors, même si c'est Louis XIV, la maladie de Crohn est une affection qui se traduit essentiellement par de la diarrhée, soit une diarrhée de malabsorption, lorsqu'elle frappe l'intestin grêle, soit une diarrhée liquide, lorsqu'elle frappe l'intestin grêle et ou le côlon seulement.
Et ça survient brutalement Alors, je veux dire, par là, à quel âge on peut être alerté là, devant, j'entends déjà toutes les coups de téléphone disant j'ai la diarrhée et tout ça,
est-ce que j'ai une maladie de Crohn? Bien entendu, il ne s'agit pas de... Non. C'est une affection qui peut frapper dès l'enfance, à l'adolescence. Pendant longtemps, on a pensé que sa fréquence maximum se situait entre 20 et 30 ans. En fait, maintenant, on sait que c'est également une maladie à révélation chez l'adulte, voire même chez le sujet âgé.
2,5 millions de personnes en Europe atteintes.
Probablement. Alors, ce qui est intéressant en liaison avec ce qu'on a dit, c'est que, bon, alors, parmi les autres signes, peut-être, ajoutons qu'il peut y avoir un tableau général, il peut y avoir de la fièvre, un amaigrissement, surtout des douleurs abdominales, notamment à droite, et parfois des manifestations extra-digestives, articulaires, cutanées, etc. C'est une maladie assez complexe, qui est considérée comme une maladie auto-immune, qui fait partie des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, mais qui parfois est à début aigu, révélée par un syndrome apendiculaire, par exemple, dans les formes iléales de la maladie, ou par un tableau occlusif. En tout cas, ce qu'on sait, et ce qui nous permet de faire le lien avec le microbiote dont on a parlé, c'est qu'il est vraisemblable que la maladie de Crohn, c'est une affection liée à une dysrégulation immunitaire, c'est-à-dire une hyperréactivité immunitaire de nos cellules immunes intestinales, en réaction à, comme on dit, une dysbiose, c'est-à-dire une anomalie qualitative et ou quantitative du microbiote intestinal local, c'est-à-dire iléal et colique.
Donc ça veut dire que le système immunitaire ne reconnaît plus certaines cellules?
Alors, qu'il ne les reconnaît plus ou il les reconnaît trop.
C'est agressif.
C'est-à-dire, à l'état normal, ce qui distingue d'ailleurs l'intestin d'autres organes, il y a une inflammation normale dans l'intestin. Parce que l'intestin, là encore, on s'en est trop savant, reconnaît des motifs bactériens particuliers de notre flore normale, de notre flore, comme on dit, commensale, qui est particulière à chacun, mais qui est quand même qu'on qualifie de normale par son profil. Eh bien, dans certains cas, la réaction inflammatoire, qui est une réaction modérée, qui se fait grâce à des récepteurs qui réagissent à ces motifs bactériens, les fameux PAMS, c'est-à-dire, ou MAMS, les microbes associated molecular patterns, donc des profils moléculaires associés aux microbes qui sont reconnus par des récepteurs. Il y a une petite réaction inflammatoire, mais qui est normale, qui est bonne, puisqu'elle permet même d'éliminer les antigènes nocifs. Et puis, pour des raisons peut-être liées à la nature de cette flore, ou peut-être liées à des facteurs génétiques associés, cette réaction inflammatoire parfois dépasse son but et provoque une inflammation locale dont on pense que c'est un des éléments certainement décisifs d'éclosion de la maladie de Crohn.
Donc, la conséquence, c'est donc un hyperfonctionnement, on n'arrive plus à absorber, et donc du coup, c'est une diarrhée et une évacuation trop rapide, et ça peut être des douleurs abdominales, et des diarrhées chroniques, et donc on va devoir essayer, on parle de poussée, hein, ça marche souvent par poussée.
Mais c'est une maladie qui évolue par poussée, et un point étonnant qui certainement servira un jour à déterminer son mécanisme, c'est que très curieusement, cette maladie fait des sauts de puce, ou peut faire des sauts de puce sur l'intestin. Elle peut frapper, par exemple, la terminaison de l'intestin grêle, et puis un segment du côlon situé 30 cm plus bas. Ou même, si elle n'atteint que le côlon, elle peut n'atteindre que des segments relativement limités, séparés par des zones saines. Ceci est très particulier à la maladie de Crohn et la distingue d'une autre maladie inflammatoire qui est la rectocolite hémorragique.
Qui elle atteint plutôt le gros intestin.
Qui n'atteint que le gros intestin et qui est continue dans ses lésions.
Alors qu'elle, elle est sous forme.
Il n'y a pas de ces fameux sauts de puce.
D'une part, et c'est poussé, hein, je veux dire, enfin si, aussi, en rectocolite aussi. Mais
il y a des poussées.
Il y a des poussées aussi. Mais donc, vous allez devoir faire un diagnostic, parce qu'il y a des traitements qui peuvent être proposés. Et comment allez-vous faire le diagnostic dans l'intestin grêle, qui n'est pas d'accès très facile, parce que les radios, je dirais, ne montrent pas énormément de choses. Donc, qu'est-ce que vous avez comme moyen pour investiguer d'abord l'intestin grêle et d'autre part pouvoir faire le diagnostic de cette maladie de Crohn?
France Culture, Révolution médicale, René Friedman.
Professeur Claude de Matuszanski, quels sont donc les moyens d'investigation de cet organe qu'est l'intestin grêle?
Alors, la maladie de Crohn frappe l'intestin grêle à peu près dans 30% des cas de façon isolée, et puis en association avec le côlon dans 30 ou 40 autres pourcents. Et elle frappe uniquement le côlon dans 40%. Alors les investigations se sont beaucoup développées.
Oui, vous voulez dire qu'on peut faire des fois le diagnostic à cause d'accès autres. Même
d'accès
la peau,
autre,
je dirais même la peau, les articulations, les yeux, enfin, voilà, peuvent avoir
disons,
des maladies.
Disons que maintenant, les méthodes les plus rationnelles pour faire le diagnostic sont des méthodes endoscopiques.
Alors vous pouvez rentrer un endoscope?
Alors, on peut entrer un endoscope d'abord par voie anale pour faire une colo-iléoscopie. On arrive à gagner le site iléal de la maladie de Crohn.
Donc tout le monde se rappelle que le côlon, c'est un cadre, comme on dit, le cadre colique, et qu'on peut donc cheminer, puisqu'on fait la colonoscopie pour voir s'il n'y a pas d'anomalie à partir de 50 ans et plus de cancer, mais qu'on peut aller jusqu'à l'abouchement, ou l'intestin dont nous parlons, avec vous, professeur Matuszanski, ça bouche dans le côlon. Donc on chemine, et on peut faire en tous les cas, pas tout, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y a 6 mètres, mais enfin en tous les cas, la première partie.
On peut remonter, effectivement, à travers la valvule iléo-sécale ou iléo-colique dans l'iléon, et on peut remonter sur une certaine distance. On peut à ce moment-là voir l'état de la muqueuse, effectuer des prélèvements biopsiques qui permettent de confirmer l'existence d'une inflammation locale, voire parfois sa spécificité lorsqu'il y a des nodules, comme on dit, tuberculoïdes.
En fait, ça va être sur un examen au microscope d'un prélèvement d'une partie du tissu intestinal. Par une biopsie.
Mais disons que la signature histologique typique de la maladie de Crohn n'est obtenue que dans 30 à 40% des cas, et le reste...
Le contexte suffit.
C'est le contexte, le caractère inflammatoire des biopsies,
ouais.
de la muqueuse elle-même en endoscopie, et puis...
Est-ce que c'est familial? Est-ce qu'il y a une génétique de la maladie de Crohn?
Alors, il y a une génétique. Disons que l'incidence familiale est situé entre, selon les publications, entre 5 et 12 à 13%.
Alors, il y a jumeaux, par exemple, les jumeaux, qu'on a, ils ont souvent.
Oui, il y a certainement une concordance phénotypique chez des jumeaux homozygotes, indiscutablement. Et les facteurs génétiques ont été très étudiés, notamment par la présence, enfin, le plus connu, ça n'est pas le seul, puisque maintenant on a. À peu près 170 variants qui ont été variants génétiques qui ont été caractérisés au cours de la maladie de Crohn, mais le plus caractéristique a été NOD2, hein,
un gène qu'on retrouve fréquemment.
Voilà, NOD2 carte 15, dont des polymorphismes seraient en liaison avec des localisations particulières de la maladie de Crohn. 30% des sujets ayant une maladie de Crohn iléale sont porteurs de polymorphismes de NOD2.
Est-ce que vous avez le sentiment, quand vous avez commencé vos études, ou même plus que ça, et maintenant, qu'on progresse dans la compréhension de l'origine de cette maladie bizarre?
Alors, je dirais oui. Enfin, j'ai commencé il y a 50 ans, donc indiscutablement, et suivant la littérature d'assez près, je vous remercie de cette question, parce qu'elle m'intéresse. Je dirais oui, mais les pas décisifs, les pas PAS, au sens...
On n'a pas vraiment le doigt cause qui va entraîner.
C'est
multifactoriel. La génétique rentre en ligne de compte, mais n'est pas toujours.
Non, n'est pas toujours. Alors j'ajouterais, pour la génétique, qu'il vient d'être publié, là encore, je parle souvent de publication, mais c'est quand même maintenant très important de notre savoir.
Et bien sûr.
Un travail très important qui a été publié dans le Lancet, qui a porté sur un très grand nombre de sujets, plusieurs dizaines de milliers, et qui a étudié les relations génotype-phénotype dans les différents aspects des maladies inflammatoires de l'intestin. Et on a beaucoup modifié nos pensées à la suite des conclusions de ce travail. Et par exemple, on a constaté dans ce travail que les meilleures corrélations génotype-phénotype sont faites pour la maladie de Crohn colique et qu'elle est assez proche de la rhytocolite hémorragique. Alors que la maladie de Crohn iléale, dans ses corrélations génotype-phénotype, est plus éloignée de la maladie de Crohn colique qu'on ne le pensait. Beaucoup plus éloigné. Donc, on pense même maintenant qu'il y a trois entités relativement distinctes. La maladie de Crohn iléale pure, la maladie de Crohn colique, parfois avec une atteinte iléale associée, et la rhytocolite hémorragique, outre les formes inclassées.
Revenons peut-être, parce que là on est dans la surspécialité,
oui,
peut-être comment vous allez explorer les intégrales, parce que je voulais que vous parliez de cette vidéocapsule. Alors, vous voyez une caméra qui se balade dans l'intestin. Ça fonctionne bien ?
Alors ça fonctionne bien, il y a des indications très précises, il faut que l'intestin soit perméable, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de gêne à la progression, de
soucis. Si on reste avec sa caméra dans le ventre, c'est pas terrible.
De rétrécissement, de sténose bien entendu. Alors effectivement, elle est intéressante, notamment pour voir des parties du grêle qu'on ne peut pas voir facilement, c'est-à-dire la partie moyenne ou la partie haute, le jejunum, etc. Encore que maintenant, on a des tubes qui permettent d'aller assez loin dans l'intestin. Mais il faut se rappeler qu'elle ne permet pas de biopsie. Donc, le diagnostic qu'on va faire est un diagnostic purement visuel. Sur l'analyse et des séquences d'images.
J'ai vu qu'il y a pas mal de start-up là, qui développent des vidéos, comme ça, de l'intérieur. Alors, sur le plan des traitements, on n'a pas le temps parce qu'on a d'autres choses à discuter, mais il y a des traitements immunosuppresseurs qui sont proposés. Il y a parfois la chirurgie qui peut être proposée, qu'on essaye d'éviter, mais des fois quand on a des sténoses et qu'on a des fistules, il faut bien opérer. Mais évidemment, tout ça va réduire, je dirais, la quantité d'intestin grêle disponible. Et on risque d'arriver parfois à une insuffisance de fonctionnement de l'intestin, pour lequel, d'une façon générale, pas uniquement dans la maladie de Crohn, vous avez, vous et votre équipe, développé donc deux choses dont nous allons parler après la pause, qui sont d'une part l'alimentation parentérale, quand on ne peut plus, temporairement ou un peu plus longuement, utiliser la voie normale de l'alimentation, et puis la greffe d'intestin, qui reste rare, mais qui est quand même une prouesse qui a été faite chez l'enfant, mais ensuite, puisqu'il y a aussi des maladies intestinales chez l'enfant, et puis chez l'adulte, nous y reviendrons dans un instant.
Thank you.
Vous êtes sur Révolution Médicale, une émission de René Friedman qui est en collaboration avec le quotidien du médecin, puisque chaque mardi, une série de questions de médecins sélectionnées par le journal Le Quotidien est posée à nos invités et figure sur le site de notre partenaire, auquel je vous renvoie. Ce d'autant qu'avec le professeur Claude Matuszanski, nous abordons là quelque chose de moins connu, qui est cet organe, l'intestin grêle. Donc, au moins 6 mètres de long, mais surtout multicarte, comme il l'a dit, plusieurs fonctions immunologiques, fonction bien sûr d'absorption, qui est un des rôles premiers, et puis fonction neurologique, le second nerveux, second cerveau, qui est un terrain d'exploration. Alors, je voudrais qu'on... Peut-être juste un mot sur la maladie de Crohn que nous avons parlé, mais peut-être juste sur le traitement. Vous vouliez dire quelque chose, professeur Matuszanski?
Oui, à propos des progrès, puisque Révolution médicale s'y prête bien, peut-être que les progrès les plus importants ont été faits sur les traitements, et je dirais les traitements anti-inflammatoires qui permettent de donner des rémissions importantes. Deux types de traitements qui sont efficaces, bien sûr... On avait la corticothérapie, mais on sait maintenant que ça crée une corticodépendance. Donc, et grâce aux immunosuppresseurs, on a pu d'une part vaincre cette corticodépendance et surtout permettre d'avoir des rémissions très prolongées. Et puis après, les immunosuppresseurs sont venus, depuis une quinzaine d'années, les biothérapies par anticorps monoclonaux, qui constituent indiscutablement un très grand progrès dans le traitement, je dirais presque immédiat, de la maladie de Crohn dans ses formes inflammatoires, puisqu'on sait maintenant qu'il faut probablement d'emblée associer les immunosuppresseurs à ces biothérapies, et surtout dans le traitement à terme, car la maladie s'éteint pendant des périodes prolongées grâce à ces progrès thérapeutiques.
Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on ne guérit pas complètement la maladie de Crohn, mais en tous les cas, on lui donne un bon coup de massue pour qu'elle...
Voilà, on lui donne un bon coup de massue. Alors, on ne guérit pas, c'est en accord avec l'esprit de la recherche, c'est-à-dire comme on n'a pas trouvé la cause.
Et voilà.
On aurait aimé guérir sans trouver la cause, mais disons que là, la recherche garde sa raison. Je pense que ça viendra.
Alors, donc, on disait que dans des insuffisances intestinales, qu'elles se soient congénitales, parce que des fois, il y a des naissances qui se font avec un grêle qui est tout petit, une atrésie, ce qu'on appelle, ça c'est un peu la catastrophe, ou bien une insuffisance intestinale acquise. Alors, par exemple, justement, on a dû opérer des maladies de Crohn de façon intensive, ou bien il y a eu un trouble vasculaire qui fait que l'intestin lui-même n'est plus vascularisé, une complication. C'est aussi ce qu'on appelle les volvulus, c'est-à-dire les occlusions. L'intestin tourne sur lui-même pour différentes raisons, parfois des tumeurs, parfois des troubles vasculaires. Et donc, on est obligé d'intervenir et de faire ce qu'on appelle une résection, qui est vraiment remettre bout à bout, mais qui surtout va avoir des conséquences, une fois qu'on a passé la période aiguë, du fait que l'intestin, ces multicartes que nous envisageons tout à l'heure, ne fonctionnent pas. Et donc, on n'a pas ce qu'il faut en termes d'alimentation. Aussi, les rayons, lorsqu'on est obligé de donner des rayons, ça va aboutir aussi à avoir une perte de la fonction intestinale. Et donc là, on dit, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Alors, peut-être le cas de l'enfant, qui n'est pas votre pratique, mais dont vous connaissez. Et puis, le cas de l'adulte. Comment vous avez commencé à mettre en place cette alimentation parentérale sur laquelle vos travaux font date?
Alors, encore juste un brin d'histoire.
Bien sûr.
Tout a démarré... dans les années 65, par un chirurgien, Stanley Dudrick, qui a fait d'abord des recherches expérimentales chez des chiots et qui ensuite a publié pour la première fois en 1967 la survie et le développement quasi normal de la croissance d'un très jeune bébé qui avait été tenu en alimentation parentérale par voie veineuse pendant de longs mois.
Donc parentérale, ça veut dire par voie veineuse, concrètement.
Voilà, parentérale par voie non entérale, c'est-à-dire non digestive.
Non digestive, voilà.
Et c'est donc par voie veineuse, quel que soit l'artifice que l'on utilise pour accéder à cette voie veineuse. Cette voie veineuse, pour les nutritions parentérales prolongées, se fait toujours dans une grosse veine de l'organisme, en l'occurrence la veine cave supérieure, qu'on atteint soit par des cathéters, soit par des chambres implantables, enfin...
Non, non, mais ça c'est important, parce que les chambres implantables, par exemple, vous l'avez développé, et c'est une chirurgie, on va mettre donc une chambre, comme on dit, qui va permettre d'injecter un certain nombre de produits, et de ne pas piquer à chaque fois les veines, parce que sinon on bousille les veines, pour parler clair. Donc c'est quand même, cette alimentation parentérale, ça permet de sauver un certain nombre de vies, soyons clairs.
Tout à fait. Et là, je pense qu'on va parler essentiellement de la nutrition parentérale prolongée.
Prolongée, bien sûr.
Parce qu'il faut dire que la nutrition parentérale en tant que telle s'est beaucoup développée au cours des 15-20 dernières années. Et les cas les plus fréquents sont les alimentations parentérales de courte ou de moyenne durée.
Par exemple,
notamment dans ces indications cancérologiques.
Mmh.
C'est un support au traitement des cancers, soit parce qu'il y a sur l'intestin une localisation qui gêne l'absorption.
Bien sûr.
Soit parce que les médicaments anticancéreux sont mal tolérés et qu'on préfère administrer, puisqu'ils sont déjà administrés par voie veineuse, à la fois les médicaments et la nutrition par cette voie. Donc les cancérologues sont très, également les réanimateurs, sont très utilisateurs.
Mais ils ont besoin d'avoir un organisme le plus en forme possible. Sinon, leur traitement va guérir, mais la personne ne va pas survivre.
Voilà. Mais je précise, à une condition, c'est que l'intestin ne soit pas fonctionnel.
Car
une des règles d'or de la bonne utilisation de la nutrition par voie parentérale, c'est-à-dire en dehors du tube digestif, c'est que ce tube digestif ne fonctionne pas.
Donc c'est pas un petit peu.
Voilà.
C'est l'un ou l'autre, c'est ça que vous voulez dire?
Ça peut être l'un et l'autre si on est dans un état d'insuffisance. Si ce qui reste d'intestin, par exemple, ne permet pas une absorption suffisante...
On peut compléter?
On peut compléter,
oui. Et alors qu'est-ce que vous voulez dire quand l'intestin doit être au repos, dans ce cas-là?
Alors,
où il ne doit pas être inflammatoire?
Alors, la notion de mise au repos par la nutrition parentérale, c'est encore un peu autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des intestins qui peuvent rester en partie fonctionnels, mais dont on préfère qu'ils ne soient pas en contact avec les aliments. Ça a été une de ces indications-là qu'on a utilisées longtemps dans la maladie de Crohn. En poussée inflammatoire, même si la perméabilité était conservée, on préférait parfois mettre au repos par une nutrition parentérale de quelques semaines.
Oui, parce que sinon, les aliments vont relancer la machine inflammatoire.
Relancer la machine inflammatoire.
On n'arrive pas à la calmer.
Mais c'est un cas finalement assez particulier au sein des indications.
Mmh. Et donc, quand vous faites une nutrition parentérale prolongée,
voilà.
C'est d'ailleurs, on parle de combien de temps?
Au-delà de 3 mois.
Ah oui.
Au-delà de 3 mois. Je précise simplement, sans vouloir citer des chiffres records, parce que c'est pas à coup de scoop qu'on fait la bonne médecine,
mais
que maintenant nous avons en nutrition parentérale prolongée des reculs de 30 ans. Nous avons des malades qui ont plus de 30 ans de nutrition parentérale.
Mais ça veut dire quoi? Ils sont hospitalisés depuis 30 ans?
Ah non, encore, je vous remercie de cette question. Ils sont en nutrition à domicile, ce qu'on appelle la nutrition parentérale à domicile, où ils se gèrent d'ailleurs eux-mêmes sous le contrôle d'une infirmière à distance ou d'un contrôle médical à distance, et ils se branchent et ils se débranchent eux-mêmes, soit chaque jour si ils ont besoin d'une nutrition quotidienne, soit plusieurs fois par semaine s'ils ont besoin d'une nutrition simplement 3-4 fois par semaine. C'est ce qu'on appelle la nutrition discontinue, cyclique, que nous avons mise au point justement, d'une part avec les collègues de Saint-Lazare et que moi-même j'ai mise au point quand j'étais à Poitiers à ce moment-là. Nous avons débranché pour la première fois des malades de leur nutrition dans la journée en 1978. Et nous avons permis comme ça à des gens d'avoir une activité ambulatoire normale.
Ambulatoire. Et ils peuvent avoir leur stock, on va dire, sur eux? Leur stock, leur poche de nutrition, parfois sur eux?
Alors ça, c'est ce qu'on appellerait la nutrition ambulatoire. Le plus souvent, ils se nourrissent lorsqu'ils sont au repos, disons, lorsqu'ils vont se coucher. Ou lorsqu'ils se mettent dans un fauteuil pour regarder la télévision. Donc on a abandonné la nutrition continue avec poche.
Ah.
Nos collègues de Montpellier l'avaient développée.
Oui, moi j'avais en mémoire.
Absolument.
Ça.
Mais nous avons préféré faire une nutrition discontinue sur 10 à 12 heures nocturnes, dont on a montré que si elle était délivrée avec un débit bien calculé, bien défini, elle était parfaitement tolérée.
Est-ce que vous utilisez la e-santé là, pour contrôler la quantité, la qualité, peut-être même de ce qui est absorbé? Est-ce que vous avez des systèmes de contrôle ou d'aide à la décision des patients? Ou vous allez aller vers cela?
On va aller vers ça. On va aller vers
ça. Parce que c'est vrai que ça peut, comme le diabète, enfin d'autres
choses
qui se développent aujourd'hui, sur l'autocontrôle, l'utilisation par le patient de cette notion médicale peut être vraiment intéressante.
Je précise ce qui est intéressant, c'est que le patient se manage, comme on dit lui-même, en nutrition parentérale à domicile, après avoir été formé dans un centre agréé, dans un centre expert à l'hôpital, mais que ce patient peut être un adulte, mais aussi un enfant. Claude Ricourt, Olivier Goulet et nos collègues de Necker Enfants Malades, qui sont des orfèvres dans ce domaine, ont montré combien l'enfant, avec ses petits doigts agiles, était tout à fait capable de se brancher le soir et de se débrancher le matin en nutrition parentérale.
Quand vous êtes dans une situation de nécessité de nutrition parentérale et que ça ne fonctionne pas pour certaines raisons, quelle est la dernière étape possible? Est-ce que c'est parce que vous étiez en but à cette histoire que vous êtes passé à la possibilité de faire une greffe intestinale?
Oui, alors, voilà, là on en arrive à, aux relations entre la nutrition parentérale prolongée et les indications à la transplantation intestinale. Alors, disons que les indications à la transplantation intestinale viennent soit d'un échec de la nutrition parentérale ou de complications.
Par exemple, elle donne des complications infectieuses,
des thromboses, alors pas simplement une fois une thrombose, mais des thromboses multiples, et surtout une complication majeure, qui est l'insuffisance hépatique, avec ou sans cirrhose, insuffisance hépatique qui pendant très longtemps était en partie liée au type de nutriments que l'on apportait, notamment à certaines variétés de lipides. Maintenant, notamment chez l'enfant, grâce, je vous parlais tout à l'heure de Claude Ricourt et d'Olivier Goulet, mais également chez l'adulte, l'équipe que j'ai dirigée, qui maintenant est à Beaujon, dirigée par Yoram Bounik et Francisca Joly, qui a fait justement ce livre récent qui a tant de succès, ont contribué donc à montrer la meilleure tolérance de certaines variétés de lipides riches en oméga 3, en gros huile de poisson, hein, qui maintenant sont utilisés couramment dans la nutrition parentérale et ont considérablement réduit les complications hépatiques. Sinon voilà, les indications c'était l'échec, les complications, la mauvaise tolérance de la nutrition parentérale.
Combien de personnes qui sont sous nutrition parentérale, grosso modo, comme ça?
Alors, adultes plus enfants, en nutrition parentérale prolongée, vraiment.
Prolongée, on parle de...
Je dirais à peu près 1000 personnes en France. Mmh. 1000 personnes en France, dont presque les deux tiers sont des grêles courts. Des grêles courts post-chirurgicales, dont vous avez tout à l'heure un peu énoncé chez l'enfant comme chez l'adulte les causes, et auxquelles s'ajoutent bien sûr les troubles de la motricité, des lésions muqueuses étendues, ou des formes très particulières de maladie de Crohn. Mais c'est surtout des grêles courts, à peu près 1000 personnes. Qui sont répartis, sont répartis en des centres, ils sont pris en charge, bien qu'étant à domicile, sont surveillés par des centres agréés, qui sont des centres experts de nutrition parentérale prolongée, qui sont répartis sur le territoire. Alors juste là, un souvenir encore, j'ai eu le plaisir avec Claude Ricourt pour l'enfant, et moi je m'occupais de l'adulte, dès 1982, d'obtenir un décret de la Sécurité sociale permettant de prendre en charge la nutrition parentérale à domicile, donc de former...
Oui, ça a été une grande...
Ça a été un grand progrès en 1982. Oui, ils ont fait la même chose ensuite pour la nutrition entérale.
Donc, venons-en à la greffe intestinale dans les quelques minutes qui nous restent. Donc, vous avez, chez l'adulte, débuté ce projet quand?
Alors, chez l'adulte, nous l'avons d'abord débuté avec retard par rapport à l'enfant. Je voudrais simplement rappeler ici tout ce que l'équipe de Necker Enfants Malades a apporté à la transplantation intestinale. Claude Ricourt et Olivier Goulet ont stimulé par Denis Pellerin et avec la collaboration de Yann Révillon, collaboration essentielle puisque Yann Révillon était le chirurgien, ils ont réalisé en 1987 la première transplantation intestinale chez l'enfant en France.
C'était pour quelle maladie, vous vous rappelez?
C'était une résection étendue, je crois, post-volvulus.
Post-blocage.
Et surtout, c'est en 1989 que la transplantation qu'ils ont réalisée, un jeune enfant, a été marquée du plus grand succès, puisque c'est la transplantation actuellement qui est la plus ancienne du monde. Elle a 26 ans de recul, et cette personne, cette jeune femme, est en parfaite santé, a des enfants d'ailleurs, je crois.
Ah oui.
Oui, tout à fait. Et donc vraiment, ça a été les pionniers de la transplantation intestinale en France. Alors nous autres, chez l'adulte, nous avons, avec Bernard Messing, également avec la collaboration déjà à l'époque de Francisca Joly-Gomez, Nous avons monté un programme de nutrition, de transplantation intestinale chez des malades en nutrition parentérale prolongée. Et nous avons fait effectuer, en collaboration avec nos collègues de Paul Brousse, Denis Castin et Henri Bismuth, la première transplantation française foie plus grêle combinée en 1997.
C'est-à-dire qu'on peut pas faire la transplantation que du grêle ?
Si. Il y a quatre modalités. On peut faire une transplantation isolée de l'intestin grêle. Chez l'adulte, c'est on transplante 1,50 m à 2 m. Soit une transplantation combinée foie plus grêle, lorsqu'il y a une indication, c'est-à-dire lorsqu'il y a notamment une insuffisance hépatique majeure, voire une cirrhose, qui d'ailleurs donne des résultats presque meilleurs que la transplantation isolée, car le foie a un effet protecteur, semble-t-il, sur le plan immunologique, vis-à-vis du rejet. Troisième modalité, c'est ce que l'on appelle la transplantation en grappe, c'est-à-dire on transplante un bloc qui peut comporter l'estomac, le duodéno-pancréas, le jéjunum, l'iléon et une partie du côlon et de la valvule iléo-cécale, avec ou sans le foie d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle la transplantation en grappe, qui d'ailleurs donne d'assez bons résultats. Il y a beaucoup plus de transplantations d'ailleurs en grappe aux États-Unis qu'en France, bien entendu.
Pourquoi bien entendu ?
Je dis bien entendu, c'était un peu volontaire parce que, je dirais, c'est ça peut-être tout à notre honneur, aux États-Unis, la transplantation intestinale a été, multipliée par les centres de nutrition parentérale prolongée dont s'occupent des chirurgiens. Et il semble, et c'est pas du tout une... La collaboration entre les médecins et les chirurgiens...
Un petit peu une critique quand même, mais c'est pas grave.
Non, la collaboration sur la nutrition parentérale entre médecins et chirurgiens est moins bonne qu'en France. Et disons que les indications sont plus directes.
Ils ne sont pas faits en pluridisciplinaire.
Voilà.
D'accord. Et donc, la quatrième possibilité...
C'est la transplantation en grappe sans le foie. Elle peut se faire avec le foie ou sans le foie.
Et comment se fait-il, même si c'est pas votre domaine particulier, pour l'enfant, comment est-ce qu'on arrive à transplanter un grêle d'adulte ?
Effectivement, il y a un problème de place, surtout sur des abdomens qui sont déjà des abdomens souvent polyopérés avec des brides ou gelés par une inflammation, etc. En fait, il s'agit, et c'est pour ça que les donneurs sont moins fréquents chez l'enfant, je voudrais pas parler à la place de mes collègues. Mais les donneurs sont moins fréquents parce qu'il s'agit de transplantation à partir de cadavériques, n'est-ce pas, à partir de sujets décédés et d'enfants décédés. Car effectivement, il est difficile de faire intégrer dans une cavité abdominale d'enfant un intestin grêle suffisamment long d'adulte. Il y a quelques cas de transplantation sur donneurs vivants chez l'enfant, chez l'adulte, mais qui sont très peu nombreux.
C'est-à-dire qu'on enlève quelqu'un volontaire pour donner une partie de son intestin.
Ça ne pose pas de problème particulier, mais c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel dans le domaine de la transplantation intestinale.
Oui. Enfin, c'est vrai que on en parlera d'ailleurs bientôt dans une de nos émissions sur tout ce qui est don d'organes, mais c'est vrai que d'ici un mois, le don à partir de donneurs vivants s'est quand même pas mal développé, pose un certain nombre de problèmes éthiques, mais aussi des réalisations qui sont assez intéressantes. En tous les cas, vous voilà parti donc chez l'adulte vers cette première greffe. Vous pensez que c'est quelque chose qui va se maintenir, qui va se développer en termes de nombre ?
Alors, je veux dire que là, un certain esprit rigoureux et de recherche nécessite qu'on soit prudent. Car indiscutablement, les résultats de la transplantation intestinale ne sont pas ceux qu'on espérait.
C'est-à-dire ? Il y a des complications ?
Il y a des complications. Et la survie, par exemple, là j'ai les statistiques du registre mondial, il y a un registre mondial qui est tenu par les Canadiens, de transplantation intestinale, les statistiques stagnent. Le taux de survie du transplanté à 5 ans est aux alentours de 56% dans les dernières statistiques de 2015, et elle n'a pas bougé, disons, au cours des dernières années. Alors ce qu'il faut voir, à titre de comparaison, c'est qu'en nutrition parentérale prolongée, la survie de la même façon à 5 ans est de 75%. Et elle est même de 85% lorsqu'on s'adresse à des sujets de moins de 40 ans. Donc il y a là quand même un dilemme, je dirais presque éthique, de discussion thérapeutique,
Vous qui avez été membre du comité national d'éthique, donc vous aimez bien cette approche.
Oui, aussi, j'aime bien cette approche dans le cadre justement de l'autonomie du patient, qui est un des cinq critères fondamentaux de l'éthique, effectivement. Et c'est pourquoi tout à l'heure, dans les indications que vous avez bien voulu me demander à la transplantation intestinale, il est évident que le ressenti du patient en nutrition parentérale, le fait qu'il accepte ou n'accepte pas, joue un rôle indépendamment de l'insuffisance hépatique et également du risque vital. Puisque quand il y a un risque vital dans une maladie en nutrition parentérale prolongée, c'est sûr qu'on va certainement essayer de voir si la transplantation ne peut pas diminuer ce risque de mortalité. Donc sur le plan éthique, ça pose effectivement un problème, car les résultats de la transplantation sont intéressants, mais sont moins bons que la nutrition parentérale, par exemple pour les résultats à 5 ans, indiscutablement.
Vous faites des réunions multidisciplinaires avec les chirurgiens, les médecins et les immunologues, enfin tous ceux qui peuvent participer avant de prendre une décision. Ça se passe
bien sûr, c'est très multidisciplinaire. Je me souviens de ce que nous avons fait pour la première transplantation combinée foie grêle avec nos collègues de Paul Brousse. Nous avons eu là des échanges formidables. Parce que tout le monde est là, y compris même des gastro-entérologues spécialisés comme les hépatologues, puisqu'ils étaient là pour apprécier l'importance de la science hépatique dans, pourtant c'est une transplantation de l'intestin, mais dans le fait d'ajouter ou non le foie à la transplantation. Absolument, c'est très multidisciplinaire. Et si vous me permettez, là je voudrais donner une information qui n'est pas, comme on dit, la publicité et la réclame, mais qui est une innovation. À l'hôpital Beaujon, a été ouvert récemment, mais la création a pris bien sûr quelques années, un centre tout à fait remarquable, je dois dire, dans le service du professeur Yoram Bounik et avec la collaboration d'Olivier Corcos et de Françoise Gomez-Joly, un centre tout à fait unique qui est ce qu'on appelle Survie, qui est une structure pour les urgences vasculaires intestinales. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est bien, chez l'adulte du moins, les ischémies et les infarctus entéro-mésentériques,
qui
sont la principale source de syndrome du Grélicourt et partant d'éventuels candidats indication à la transplantation intestinale.
C'est une urgence, on est obligé d'opérer, mais automatiquement, si on enlève une partie d'intestin, il va rester qu'un intestin court, d'où les troubles ensuite.
Donc ce centre qui a été créé, cette structure pour les urgences vasculaires intestinales qui comporte 4 lits, et je rebondis sur la notion de collaboration, est le fruit d'une collaboration entre les gastro-entérologues adultes, Olivier Corcos sur Ammonique, Francisca Joly-Gomez, les chirurgiens digestifs, Yves Panis, mais vasculaires également, de l'hôpital Bichat, les radiologistes, le service de Valérie Villegrain, les réanimateurs, Catherine Pogam, tout ça pour diminuer finalement le risque de Grélicourt nécessitant d'une nutrition parentérale prolongée dans la principale cause de Grélicourt, que sont les ischémies intestinales.
Donc avec vous, Claude Matuszewski, nous avons survolé, on va dire, les problématiques de l'intestin, les maladies les plus fréquentes, comme la maladie de Crohn, nous donner un espoir thérapeutique, même si on ne comprend pas le pourquoi du comment. Avec ce microbiote, ce fameux microbiote où on passe de la greffe fécale, on va dire, parce que le microbiote c'est ça, de la greffe fécale à la greffe intestinale. Donc voilà le saut un peu dans lequel nous sommes. Et je dirais surtout cet effort que vous avez développé d'ailleurs avec votre équipe. Vous n'avez pas cessé de mentionner d'ailleurs, ce qui témoigne du lien fort, sur l'alimentation parentérale qui permet donc de passer des caps et même de continuer à vivre avec une bonne alimentation. Alors cette émission de René Friedman a été préparée avec la collaboration de Catherine Donnet, réalisée par Dany Journeau, avec Jacques Hubert à la prise de son. Vous venez d'écouter donc cette émission qui est en collaboration avec le quotidien du médecin et vous pouvez retrouver les réponses aux questions que vous avez posées au quotidien du médecin sur le site lequotidiendumédecin.fr. Vous pouvez aussi réécouter cette émission sur le site internet de France Culture, franceculture.fr, et sur le site de notre partenaire. Alors demain, comme tous les jours à 16h, vous avez rendez-vous avec Culture Science et vous allez retrouver Planète Terre de Sylvain Kahn qui a mis au programme la suite de notre émission, puisque c'est où en est la faim dans le monde aujourd'hui. Encore faut-il avoir un bon intestin grêle pour pouvoir y répondre.
en partenariat avec les pages santé de Nice Matin.